Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui lutte pour garder la contenance habituelle et le flegme qui a bâti sa légende millénaire, mais qui quand même, bordel, est assez frétillant à l'idée de passer 3 heures et quelques en compagnie de Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci et surtout Martin Scorsese, grand ordonnateur de cette alléchante réunion d'anciens combattants qu'est The Irishman, le tant attendu film qu'il vient de signer pour Netflix et dont on va prendre le temps, nous aussi, de causer en longueur avec un trio de vétérans qui a dû faire toutes les guerres pour être aussi fort aujourd'hui. David Honora, salut David.
Je crois qu'il t'entend pas.
Non, en fait. Mais t'as cité Francis Cabrel.
Exactement.
À l'instant. J'ai bugué.
Il a aussi dit Joe Pesci. Joe Pesci. On dit pas Joe Pesci, on dit Joe Pesci.
On s'en fout. Perrine Quenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsakis, bonjour Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 211 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
T'as bugué au moins 10 secondes, hein. Je pense, montre en main, on chronométrera après avec Victor, mais je pense que c'est au moins 10 secondes.
Et comme tu nous as dit qu'en fait ton truc il marchait pas, on s'est dit il marche pas.
Il marche pas son micro en fait, ouais. Y a pas de son qui sort de sa bouche.
Son casque
et tout. Acteur Studio, c'est pour introduire l'émission.
C'est beau. The Irishman donc nous raconte la vie d'un personnage réel, Frank Sheeran, alias The Irishman, ici incarné par Robert De Niro. De Niro, donc qu'on nous présente, fermez vos gueules, au soir de sa vie dans une maison de retraite, se remémorant sa vie donc et son passé de criminel drafté par la mafia et surtout par le parrain Russell Bufalino, alias Joe Pesci, ça va, j'ai bien dit, qui va lui présenter l'un de ses partenaires, le légendaire Jimmy Hoffa, joué ici par Al Pacino, donc patron du syndicat des camionneurs, ennemi juré d'un ambitieux avocat chargé de la commission anticorruption au Sénat nommé Robert Kennedy.
It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened.
Frank, I want you to meet my cousin, Russell Bufalino.
Better watch. There's a lot of tough guys around here. Did he tell you? You're not afraid of tough guys, are you? I didn't think so.
Derrière la caméra, on l'a dit, c'est évidemment Martin Scorsese qu'on ne présente plus, enfin j'espère, sinon demi-tour, on éteint le podcast, on reprend les basiques et on revient après. Et au casting, outre le trio de tête, on trouverait Romano, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Stéphanie Kurzuba, Harvey Keitel ou encore Catherine Narducci. Votre avis sur The Irishman, les amis? Alors avant, peut-être quand même, petite mise au point, est-ce qu'on fait du full spoiler? On fait ça? On est une semaine
ouais,
après la sortie.
Netflix,
voilà. Est-ce qu'on part du principe que les gens qui nous écoutent l'ont tous vu? On les prévient qu'on va faire du full spoiler?
Mais...
On fait pas un vote à main levée, c'est pas une démocratie en fait. Déjà, je vous donne l'illusion
moi, je
du choix.
Comme je voulais dire, on dit Al Pacino.
Al Pacino, voilà. Bien sûr.
Comme dirait okay. Marty, c'est pas un Marvel, c'est du cinéma.
Ok, cool. On
et pose donc, bien les bases. Il n'y a rien à spoiler, il y a juste à regarder.
Ok, super. Voilà. Très bien, donc ce sera full spoiler, vous êtes prévenus. Si vous
Mic drop.
Complètement. On va arrêter l'émission là. Si vous n'avez pas encore vu The Irishman, vous pouvez mettre en pause, regarder le film, il revient dans 3 heures et quelques. Qui va commencer? Tiens, David Honora, je te sens en verve ce
oui.
soir.
Oui, alors... Bon, parce que j'étais malade il y a quelques jours, voilà. Maintenant je vais mieux.
T'étais bourré ou quoi? Ou qu'est-ce qui se passe?
Non, justement, mais c'est une sorte d'euphorie. C'est
post-Irishman.
Post-maladie. Post-maladie. C'est, ah, tu sais, oui, quand t'es bien. Très enrhumé, c'est. Il bah, y a des gens, ils font de la drogue à partir de ça, à partir de rhume. Donc.
Waouh!
Je pense qu'on va la tenir, l'émission de 45 minutes.
Ouais,
je pense
le purple drink.
Avec que de la merde.
C'est facilement.
Le purple drink. Non, alors ce qui est vraiment très intéressant. C'est que c'est un film qui a un peu valeur de qui a totalement même valeur de bilan non seulement d'un gros morceau de la filmographie de Martin Scorsese qui sont qui pas forcément en nombre ce qui est le plus important dans sa filmographie mais ce qui est sans doute ce à quoi on l'associe le plus c'est-à-dire les films de gangsters notamment à travers Mean Streets, mais ensuite Les Affranchis, Casino, même d'une certaine manière Le Loup de Wall Street peut être vu comme un film de gangster. En tout cas, il reprend la même forme narrative et le même style que les films que j'ai cités juste avant. Et Et en fait, dans ce genre-là, il s'est particulièrement illustré. Et c'est aussi un genre, notamment à travers Le Parrain, réalisé par Coppola, qui a été un genre absolument fondamental pour sa génération et pour la manière dont le nouvel Hollywood a triomphé dans l'imaginaire collectif.
Et pour cette génération d'acteurs qui jouent dans ce
film. Et évidemment, pour cette génération d'acteurs. Et alors, dans les acteurs, il y a à la fois les acteurs fétiches de Scorsese qu'on retrouve, donc Joe Pesci, Pesci...
vous dites que vous voulez.
Robert De Niro, évidemment, c'est la neuvième collaboration avec Scorsese. On voit aussi Harvey Keitel. Et en fait, là, il y a une pièce rapportée qui n'avait jamais joué pour Scorsese, c'est Al Pacino. Qui, est pareil, l'autre incarnation mythique de cette génération-là dans les films de gangsters, et qui permet de mettre tout le monde autour de la table pour faire le bilan de tout ça, qui est donc à la fois un bilan de la vie de cinéaste de Scorsese et un bilan d'un pan de l'histoire du cinéma. Et c'est un film qui est intéressant aussi dans sa forme, notamment avec le fait qu'il y ait Robert De Niro dans le rôle principal, parce qu'il renvoie à un autre film qui, pour le coup, de fait, était testamentaire. C'est Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, qui était son dernier film, et qui était, pareil, une grande fresque sur plusieurs années, avec... à l'époque, pour De Niro, c'était pas du de-aging, il se faisait ager dans le film pour le retrouver plus vieux. Le film se passe sur trois époques et il y a un moment où on le voit plusieurs moments où on le voit quand il est plus vieux. Et donc voilà. Donc c'est juste pour situer le contexte, c'est un peu l'expression n'est pas galvaudée, on est sur un film somme qui arrive, on imagine un peu vers la fin de la carrière de Martin Scorsese, vers la fin de la carrière de la plupart des acteurs présents, et qui invite à se poser pas mal de questions. Et en fait, contrairement à ce que je pouvais un peu m'imaginer... En fait, en voyant Les Forces en présence, en voyant le concept, le sujet, etc., en fait, on peut facilement s'imaginer que ça va être une redite typiquement des Affranchis. Et ce qui est très perturbant, je trouve, dès le début, c'est que c'est absolument pas justement le style narratif du Scorsese des films de gangsters. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il est... beaucoup plus en retenue, la narration est extrêmement lente et détendue, elle est réflexive, c'est-à-dire qu'on est sur le point de vue de Niro à la fin de sa vie en maison de retraite, qui repense à ce qu'il a fait et qui porte une sorte de questionnement moral sur toute sa vie, sur le rapport qu'il a eu avec ses amis, avec sa famille, avec ses filles en particulier. Et au final, de ce point de vue-là, on est beaucoup plus proche du film précédent de Scorsese, de Silence, qui est un questionnement spirituel, en fait.
Ciné, épisode 70.
Ouais, c'est vrai qu'on l'avait fait avec Stéphane à l'époque. D'ailleurs, dans cet épisode à l'époque, on avait notamment parlé de la dimension spirituelle importante pour Scorsese, parce que dans sa jeunesse, il avait pensé à être prêtre. Et du coup, si on a ça en tête, c'est-à-dire que Martin Scorsese, c'est pas justement qu'une petite frappe passionnée par les petites frappes justement et par les gangsters, mais justement un être spirituel et extrêmement cinéphile. C'est des choses aussi qui rejaillissent dans sa filmographie et dans ce film-là en particulier, qui font que on se pose en permanence des questions sur les personnages. Et après, ce qui est intéressant, c'est que justement cet angle moral, en fait, fait que on n'est pas, en fait, enfin, il y a un peu, de manière très marginale, au début du film, l'ascension en fait du personnage de De Niro qui va en fait faire ses armes dans la mafia, au début il est simplement chauffeur de camion, et puis de magouille en magouille il va commencer à devenir de plus en plus important. Mais en fait, très vite, et moi je trouve pas que c'était vraiment les questionnements qu'avait eu Scorsese sur ses films précédents, c'est plus des questionnements du parrain typiquement. L'avancement du personnage par rapport à sa ligne morale est le moteur narratif du film. C'est-à-dire, où est la limite? Et à partir du moment où j'ai passé la limite, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je suis en tant qu'être humain, etc. Et le film passe son temps à travailler ce genre de questionnement. Et donc, je trouve le film hyper, hyper intéressant de ce point de vue-là. Je crois que tous autour de la table, on l'a vu en projection presse. Du coup, on a eu la chance de le voir
sur
un grand écran, mais surtout au calme, dans une salle éteinte, qui est des conditions pas forcément faciles à reproduire à la maison. Et je pense que si on dit un mot sur Netflix, c'est que par rapport à d'autres films où il y a éventuellement les conditions de son, de taille d'écran et tout qui sont importantes, même si là c'est encore le cas, là je pense que le truc un peu plus compliqué, c'est à la fois la durée du film et la concentration nécessaire, le fait de vraiment pouvoir se confier, se consacrer au film entièrement. Et c'est vraiment pas une série télé déguisée en film, c'est-à-dire que je pense que ça, c'est vraiment pas pertinent de le regarder en plusieurs fois.
Perrine.
J'ai envie de citer un grand groupe français qui disait « On fait le bilan calmement en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait là plus de 70 ans. » En l'occurrence,
50 ans.
Oui, mais là, c'est plus de 70 ans.
En l'occurrence. C'est pas 50 ans. Si tu t'appropries l'énigme marron, si j'ai bien compris.
Totalement. Non, mais voilà, l'idée, c'est que c'est vraiment un film assez... Il y a une forte... nostalgie évidente qui traverse le film, ne serait-ce que par évidemment en faisant ce choix des acteurs qui ont parcouru sa cinématographie, sa filmographie et même sa cinéphilie d'une certaine façon, comme tu le disais exactement, cette cinéphilie du film de gangster dont Al Pacino est un des grands marqueurs. Mais il y a aussi, il y a énormément de mélancolie en fait derrière tout ça. En effet, c'est les souvenirs d'un vieil homme, c'est les souvenirs donc de Robert De Niro dans sa maison de retraite. Et donc, si on pourrait mettre un sous-titre à The Irishman, c'est l'histoire de l'homme qui était là, en fait. Parce que De Niro, dans le film, il n'est pas très acteur, en fait, dans cette histoire. C'est un peu un personnage qui suit un petit peu la mouvance. C'est quelqu'un qui est fasciné par les autres personnages. Il est fasciné par le personnage de Joe Pesci. Il est fasciné par le personnage de Jimmy Hoffa, qui est incarné par Al Pacino. Il est fasciné par cette figure que représente Harvey Keitel, qui finalement n'a pas énormément de place dans le film, mais qui reste une figure comme ça, de l'ombre, absolument comme ça, qui a une espèce de regard de survol absolument fort. Donc c'est un personnage qui finalement va marcher par fascination, qui va se retrouver à faire des choses au fur et à mesure sans tout à fait les vouloir. C'est pas un carriériste en fait, ce personnage. C'est un personnage qui est juste bien content d'être là. Et quand il se remémore tout ça, c'est vraiment à un moment donné, il se souvient, c'est genre le bon vieux temps en fait, c'était comme ça. Alors en effet, il y a des questions morales qui reviennent évidemment. On se les pose ces questions-là quand on fait le bilan un tout petit peu. Mais il y a aussi cette idée de c'était bien, en fait. J'ai eu une vie aussi. Et j'en suis le seul témoin, en fait. Je suis le seul témoin encore vivant. Je suis passé à travers les balles. Je suis passé à travers tout, en fait. Moi, je suis passé à travers tout ça parce que, finalement, il n'était pas cette figure de proue, en fait, de ce mouvement-là. Il l'a été à quelques moments. Il a été félicité, mis en avant. Mais il n'est jamais que cet admirateur de tout un système. Mais, en effet, il n'y a pas... cette façon de filmer la mafia, galvanisante, absolument incroyable. On a l'impression d'un travail de petite main, on a l'impression de regarder ce travail quasi artisanal. Quand on voit la façon dont Joe Pesci travaille, il y a quelque chose de presque artisanal, de proximité, qui est assez intéressant. Et c'est drôle que le film sorte d'une certaine façon tout proche du traître de Marco Bellocchio, qui est sorti récemment. Qui donc lui aussi traitait de la mafia, mais pareil avec ce point de vue légèrement décalé. Marco Bellocchio n'a pas toute cette historique de travail de gangster, mais il a quand même un travail d'observation et il observe cette mafia aussi de manière assez désenchantée, cette manière avec un regard décalé, c'est-à-dire que dans Le Traître on prend le point de vue du traître. Donc c'est-à-dire c'est pas une figure qu'on a d'habitude dans la mafia, on apprécie plus que ça, c'est celui qui se fait buter, le repenti. Et là, d'un seul coup, non, on regarde ça avec un pas de côté, de se dire, bah non, la mafia, ouais, il y avait des valeurs, moi je suis représentatif, je suis le garant de ces valeurs-là, vraies ou fausses, ça c'est une autre affaire, mais je suis le garant de ces valeurs-là. Et en même temps, voilà, je me rappelle d'une époque qui était autrement bien. Et c'est un peu ce qu'est le personnage de Robert De Niro. C'est un personnage qui est un petit peu en décalage, finalement, d'une certaine façon. Il n'est pas cette figure de proue qu'est Jimmy Hoffa. Il n'est pas cette figure centrale, ce nerf absolument vital qu'est Joe Pesci dans le film. Il est cet observateur, en fait. Il est cet observateur, cet admirateur. Et on dirait qu'on est à une fête où il nous raconte ses bonnes vieilles histoires, ses Père Castor, en fait. Et je le trouve complètement fascinant là-dedans. D'ailleurs, la narration suit l'idée du souvenir. Puisque finalement, il n'y a pas de dates précises qui nous sont données. Les dates, on comprend à quelle époque on est. Parce qu'il y a des petits phénomènes historiques. Parce que d'un seul coup, il y a des rites qui apparaissent sur les visages, etc. On ne nous situe tout à fait jamais dans le film. On a des marqueurs temporels, mais pas plus que ça. Et donc, en fait, on va marcher au rythme de la mémoire, on va marcher comme ça, à ce rythme-là. Ce qui, en effet, n'en fait pas une série télé, puisque c'est impossible de couper, puisque à quel moment on arrête de suivre un fil de pensée ? À quel moment on arrête de suivre, finalement, ce qui est la logique interne d'un personnage, la logique de mémoire d'un personnage ? Et la mémoire, elle est menteuse, la mémoire, elle peut être trafiquée, elle peut être magnifiée. Et en même temps, elle reste fascinante parce qu'il a un sens du storytelling, ce personnage. Il a un sens du détail, il a un sens... Et moi, je trouve que c'est un film où on est en... Le rythme est très très lent, clairement, mais on est en fascination permanente de ce qui est en train de se passer. On a envie de suivre de cette histoire et il y a une telle tristesse et une telle mélancolie, mais encore une fois, une telle joie d'avoir fait partie de ce truc-là. Le seul regret qu'a ce personnage, c'est sa fille, en fait. Le seul regret qu'il a, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, c'est là où j'ai pas... C'est peut-être la chose que j'ai ratée. Et le reste du temps, finalement, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'étais content d'être là. Et je trouve que c'est assez beau, en fait, vraiment, cette histoire, voilà, de l'homme qui était là.
Stéphane ?
Alors moi, je suis partiellement pas d'accord avec vous deux.
D'accord.
D'une part, 50-50. Parce que je pense que pour Netflix, le gros coup d'avoir un Scorsese dans sa banque à algorithmes, on va dire, dans sa banque à data là, c'est dans sa data banque, c'est en fait c'est d'avoir le nom de Scorsese, d'avoir le nom Pesci, d'avoir le nom Pacino, d'avoir le nom de Robert De Niro et associé à un film de gangster, parce qu'il y a on sait qu'il y a des genres en fait. Et effectivement, clairement dans le market, ils le vendent sous cet angle-là. Hein, je veux dire, c'est ce qu'ils mettent en avant. C'est ce qu'il y a à mettre en avant de toute évidence. Il y a ça et il y a un peu le de-aging, mais on va en parler peut-être un peu après. Alors oui, c'est un film, c'est un grand film en fait sur une vie, mais c'est un film qui utilise en fait parce que Scorsese, voilà, ce qu'il faut peut-être préciser d'entrée de jeu, c'est que, enfin d'entrée de jeu, enfin, on en a parlé, on l'a touché du doigt, mais Scorsese, il a inventé un langage cinématographique, c'est-à-dire tout le débat entre Scorsese versus Marvel et cinéma, pas cinéma, il faut savoir que lui, il a inventé un langage de cinéma à proprement parler, qu'il a pris en fait à des, comment dire, et avec Les Affranchis en l'occurrence, qu'il a pris, il y avait des bribes par-ci par-là dans d'autres films, dans Taxi Driver, dans Raging Bull, mais il a vraiment pris tout ce qu'il savait faire en fait et il l'a concentré pour raconter Les Affranchis en 2h20. 2h20 qui fonce, mais tête baissée en fait dans ce que ça raconte, avec des ellipses. Des voix off en fait, des plans séquences, et en fait quand tu mélanges tout ce truc et que lui il le maîtrise avec une merveille en présentant des personnages en 2 secondes, tu te rappelles tout de suite, tu te rappelles de Johnny Two Times, tu te rappelles parce qu'il le dit 2 fois, paf paf, tu vois, il dit toujours les trucs 2 fois, tu te rappelles de tous ces trucs là, tu te rappelles de l'environnement dans lequel tu vis, et là oui t'es dans l'aspect exaltant en fait de dans Les Affranchis. Casino, il a poussé ça au paroxysme en fait. Là il l'utilise au début. C'est vraiment un langage qu'il utilise. L'aspect « je kiffe d'être là » dont parle Perrine, en fait, c'est vraiment les 30 premières minutes. C'est-à-dire qu'il est là en train d'embrouiller des mecs parce qu'il pique des steaks dans son camion et qu'il va les refourguer à des mafieux. Et ça y est, il utilise ce langage-là, en fait. Il le réutilise. Et en fait, progressivement, justement, au moment où le film devient de plus en plus funèbre, il l'abandonne. Et en fait, le film devient funèbre assez rapidement, moi, je trouve. Parce que le truc, c'est que c'est un film... C'est pas seulement un film sur... ce personnage-là, ce qui est le cas, hein, en l'occurrence, c'est vraiment le moteur de la narration. Mais c'est un film sur l'histoire de l'Amérique. Parce que Hoffa, c'est quand même un truc assez monstrueux, hein, dans l'histoire de l'Amérique. Nous, on s'en rend pas forcément compte, quoi. Mais c'est un mec qui a plus ou moins mis en branle les syndicats, hein, là-bas, tels qu'ils existent encore aujourd'hui, hein, et il les a associés à la mafia. Donc c'est pas un mec sympa, hein. Enfin c'était pas un mec sympa, c'est un mec dont on... D'ailleurs c'est plus ou moins impliqué dans le film qu'il est plus ou moins en rapport avec l'assassinat de Kennedy, quoi.
Un truc qui relativise d'ailleurs un peu à la fin du film avec la scène de l'infirmière qui ne sait pas qui c'est.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, sauf qu'elle ne sait pas qui c'est. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que le fonctionnement de la société américaine, et notamment de la société du travail, en fait, est phagocyté par. Voilà. Et donc, en fait, effectivement, ça fait sens de montrer un personnage comme De Niro qui est un prolo. C'est un prolo, en fait. Mmh. C'est le mec, on lui dit, bon, tu prends le flingue, tu vas buter le mec. Il fait, OK, bon, comment je vais faire? Et il t'explique. Il te dit, bon, celui-là, il faut utiliser ce calibre-là. Il faut, il faut vraiment, si tu veux pas te faire attraper, il faut vraiment faire ça vite. Papap. Et en fait, il te montre au fur et à mesure ce qui pourrait être, en gros, un travail de livreur, un travail de ce que tu veux, puisque c'est ce qu'il est au début. Mmh. Ça devient un travail d'assassin, un travail de etc., etc.
Il fait ce parallèle, d'ailleurs, explicitement en disant, je peignais des maisons.
Voilà, en fait, c'est ça, c'est le titre du roman
dont est tiré le film.
Voilà.
Juste pour expliquer, c'est que alors, le parallèle entre. Il ne peint pas littéralement des maisons, mais le fait de dessouder des gars.
Il y a des projections.
Ça met des projections de sang sur les murs.
Le fait est que, justement, en fait, ce qui est peut-être un spoiler pour les gens éventuellement, c'est-à-dire la mort de Jimmy Hoffa, puisque c'est un personnage qui a disparu, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas. C'est-à-dire que le problème de Sim, c'est qu'il se situe sur le témoignage de Sheeran, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui est resté quand même porté disparu pendant des années, jusqu'au bout de 7 ans, en fait, on a fini par le déclarer mort, parce que c'est la loi qui veut ça, quoi.
On
n'a jamais retrouvé son corps. Il y a beaucoup de références à la pop culture qui sont faites dans les pop cultures qui sont faites sur ces
blagues sur
on a trouvé le corps de Jimmy Hoffa, etc. Donc il y a tout un truc comme ça, et en fait, bah, le fameux je peins des maisons, qui est quand même la première question que lui pose Hoffa dans le film, ce qu'on voit, en fait, c'est Hoffa, la toute première scène, en fait, c'est Hoffa qui se fait tuer. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est là où, pour moi, le film, il est totalement funéraire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas du tout. Il y a de l'humour dans le film, bien sûr, il y a, un peu d'exaltation, mais en fait, il y a des personnages qui s'apprécient, qui s'aiment, en fait. Clairement, le personnage de Pacino, et De Niro, oui, mais aussi le personnage de De Niro et Joe Pesci, c'est des personnages, en fait, qui sont associés à la vie, à la mort, en fait. Et je pense justement que là, en fait, où je pense pas que ça soit justement le souvenir, en fait, d'une belle vie, c'est que le jour où le personnage de De Niro est célébré, et c'est une scène absolument incroyable, moi je trouve qu'il dure une bonne vingtaine de minutes, où en gros il se trouve coincé entre deux feux, c'est-à-dire entre son amitié avec Pesci et son amitié avec Pacino, et qu'en fait il doit, en fait, faire le choix. Pas seulement le choix, mais même aller essayer de composer, en fait, avec les deux pour essayer de faire comprendre à Pacino qu'il faut qu'il se rétracte, en fait, qu'il faut qu'il arrête d'être aussi radical dans ses positions, que Pesci lui fait comprendre de l'autre côté que non, il n'y a pas de discussion, en fait, à avoir. C'est à un moment donné, en fait, on va se débarrasser de lui. Et en fait, ils le disent tout en sourdine, en fait. C'est jamais des trucs qui sont clairement explicités. Bah, ce moment, qui est quand même un moment clé pour le personnage de Niro, qui se déroule au moment, justement, où il est célébré, c'est, en fait, c'est le point de bascule, on pourrait dire, mais pour moi, le point de bascule, il est arrivé déjà, en fait, à un moment donné. C'est-à-dire que à partir du moment où il s'accommode avec sa propre vérité, je veux dire, c'était pas étonnant qu'il en arrive là. Mmh. Mais le truc, c'est que ça donne une dernière heure absolument, mais pour moi, dévastatrice émotionnellement, parce que le personnage Pacino, qui est quand même pas un mec super sympa, qui a quand même une relation aussi avec la fille de Niro, une relation que De Niro n'arrive pas à avoir avec sa propre fille, en fait, voilà, c'est ce qui fait que ça devient un truc où je pense pas que sa fille, ce soit le seul regret. Je pense que le fait d'avoir perdu et vraiment même, trahi cet ami, qui était Jimmy Hoffa, c'est un regret monstrueux, en fait. Et d'après ce que j'ai compris.
En fait, ce qui est un peu compliqué sur les regrets, c'est qu'il est en même temps incapable de les assumer, quoi. Enfin, il est tout seul vis-à-vis de ça.
Le film ne les assume pas. C'est-à-dire, la grosse différence, je pense que c'est que, en fait, on ne sait pas exactement ce qui est raconté dans le film, c'est un point de vue qui est raconté dans un livre. Et ce livre-là, en fait, le type dit « j'ai eu le témoignage, en plus ou moins, de Frank Sheeran, quoi ». Mais le truc, c'est que, est-ce que, en fait, globalement, est-ce qu'on saura vraiment la vraie histoire de Jimmy Hoffa et de la mort de Jimmy Hoffa ?
Il y a du mythe, en fait, forcément, c'est du mythe dans cette histoire.
Mais le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, je pense que c'est là où, en fait, où Scorsese, il peut pas vraiment totalement jouer. Et c'est que, en fait, dans le non-dit, et c'est que dans les trucs, etc., etc. Et il y a, tu parlais de cinéphilie, on parlait du Parrain, on parlait de tout ça. Il y a des références claires, nettes et précises. Il y a des scènes qui sont carrément reprises, des mecs qui se font égorger sur le devant de la bagnole par des, comment t'appelles ça, par des fils, par un tueur et tout ça, qui portent les mêmes lunettes. Enfin bref, c'est des trucs assez évidents, quoi. Et il y a ce plan final, en fait, cette scène finale, en fait, où laisser la porte entrouverte, et c'est le dernier plan du film. Et je ne peux pas croire qu'un type comme Scorsese, qui est cinéphile, qui en 90 en fait a dû se poser des questions sur le film de gangster, comment renouveler le film de gangster, comment se l'approprier au moment où le parrain en fait est une borne que tu peux vraiment pas ignorer quand t'es cinéphile, quand t'aimes le cinéma, et puis ne serait-ce que pour le grand public. Le testament, c'est pas seulement un testament sur son cinéma à lui, c'est un testament aussi sur le genre, en fait, je pense vraiment de manière générale, qui est représenté effectivement par les personnages. Mais encore une fois, il en joue, c'est-à-dire que pour moi, le personnage de Pesci, c'est quoi? C'est à la base, c'est une ligne directrice. Quand tu regardes tel qu'il est présenté dans Raging Bull, tel qu'il est présenté dans Les Affranchis, tel qu'il est présenté dans Casino, c'est un personnage énervé, c'est un personnage en colère, c'est un personnage qui sanguin, et c'est exactement l'inverse en fait ici. Et c'est quasiment hallucinant. Enfin, du coup, c'était pour moi la meilleure manière de réintroduire Joe Pesci qu'on n'a pas vu depuis presque maintenant 20 ans au cinéma.
Il a fait une retraite en 99, c'était ça.
En semi-retraite, ouais.
Il avait dit qu'il arrêtait en 99.
Même pas s'il a dit qu'il arrêtait, j'ai l'impression qu'il a dit je m'en bats les couilles à chaque fois qu'on lui a proposé un projet. Mais en fait,
il semblerait qu'ils ont dû lui proposer plusieurs fois là, le rôle.
Oui, c'est pas étonnant, hein. Si le type, ça fait 20 ans qu'il fait pas de cinéma, et puis bon, c'est quoi ses derniers films? C'est au moment où j'ai raté l'avion, je sais pas quoi, des trucs comme ça, tu vois, ouais, donc.
Il n'y en a que deux.
Ils lui ont fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser, je pense.
Mais je pense que ça fait partie des trucs, parce qu'il y a un gros questionnement sur le budget du film, en fait. Et je pense que ça fait partie aussi des problématiques. C'est comme on sait que, en fait, Netflix ont tendance à avoir les poches percées. Le film testament entre guillemets de Scorsese, à mon avis, il en fera d'autres. Hein. Je veux dire, il a au moins, à mon avis, trois, quatre films à la façon dont il tourne, c'est quand même assez régulier. Hein. Il y a, je pense, encore trois, quatre films derrière lui. Et en fait, le truc, c'est que notamment un biopic de Sinatra qu'il est censé faire depuis des années.
Ce n'est qu'un pan de sa filmographie. Donc, en fait, si c'est le testament de son rapport au film de gangster, en revanche, on l'imagine mal refaire un film de gangster.
Je pense qu'après avoir cette affiche-là, justement, et en fait arriver à la réussite, ça fait quand même 24 ans, en fait, ils n'avaient pas tourné avec De Niro. Le dernier, c'était Casino. Hein, donc, mine de rien, s'ils attendent encore 24 ans, c'est foutu, quoi. Donc, mais voilà, il y a cette notion-là, en fait, je pense, de... Et alors, il y a l'autre point problématique dont on en a un peu parlé, mais on va peut-être le toucher, c'est le de-aging, le rajeunissement numérique, qui, pour moi, en fait, pose pas de problème à la fin. C'est-à-dire, il ne dessert pas le film. Mais il aurait tellement pu en fait l'augmenter, en fait, c'est cette notion que je pense qu'il y a des choix en fait assez étranges qui ont été faits, notamment le fait que De Niro joue absolument tous les âges, que même, mais je dis surtout De Niro parce que c'est censé passer de 20 ans à 80 ans, donc il y a quand même un gap de 60 ans. Et ça reste De Niro, c'est-à-dire ça reste De Niro dans son corps, dans sa gestuelle actuelle, dans tout ça, et tout ça c'est jamais retouché. Donc il y a des scènes où il y a des plans comme ça où, j'entends la gestuelle, hein, il va chercher, il y a sa fille justement qui s'est fait bousculer par un type, et il va le voir, c'est un épicier ou un truc comme ça, voilà. Et en fait, c'est un plan séquence, il le sort, il lui fait péter la vitre, il le fout par terre, il lui met des coups, et tu te dis, le mec, il a pas 40 ans, hein, le mec qui est en train de faire ça. Il a 70 ans, ça se voit, quoi. Et du coup, c'est surtout dans ces cas-là, en fait, que c'est un problème pour moi, l'utilisation de De Niro, on va dire, dans une époque où il est censé être plus jeune. Le de-aging en soi, il est vraiment pas au niveau d'un Marvel ou d'un truc comme ça, hein. Ça c'est une évidence, quoi. Mais je pense que parce que c'est une question de méthodologie, et que je pense qu'en fait voilà, ils ont dû essayer, réessayer. Quand tu regardes le générique à la fin, il y a mais je sais pas combien de sociétés d'effets spéciaux à Taïwan ou je sais pas où en plus qui sont venus faire des rajouts en fait pour à mon avis travailler vraiment les détails.
C'est que la gueule de De Niro, à un moment faut enlever des bouts, quoi. Enfin, tu peux pas réinventer son visage pour
le problème en fait de Niro, surtout, c'est que quand tu le rajeunis, en fait, t'as l'impression d'un moment, t'as soit Ronald Reagan jeune, tu vois, soit John Wayne ou un truc comme ça. Mais le problème, c'est qu'on connaît De Niro jeune. On sait à quoi il ressemble. C'est là où, par exemple, Marvel est malin, en l'occurrence, si tu veux. C'est qu'ils savent, en fait, parce qu'ils jouent sur cette logique de nostalgie, ils savent à quoi ressemble, Kurt Russell quand ils le rajeunissent ou Michael Douglas.
Et ils font tout pour que ça colle.
Maintenant, ils font ça sur 4 scènes. C'est un film entier.
Tu peux pas faire ça sur... Enfin, par exemple, il me semble que c'était du de-aging. Il y a un plan dans Le Loup de Wall Street où DiCaprio arrive à Wall Street, justement, il descend du bus et il paraît extrêmement, extrêmement jeune sur, sur ce plan. Mais en fait, comment dire, le visage de DiCaprio au moment où il tourne le film est beaucoup moins attaqué, beaucoup moins déformé que celui de Niro par rapport à quand lui était jeune. C'est-à-dire que, enfin, vraiment, il a une tête... C'est un poème, quoi.
Après, moi, je pense que ça aurait été un problème si, si en fait, le film était raconté de A à Z, c'est-à-dire vraiment du moment où il a 20 ans jusqu'à 90 ans, et que ce soit justement dans une narration morcelée. Mmh. Et qui, encore une fois, là, c'est là où aussi le film il est brillant, c'est qu'en fait, tu comprends absolument tous les enjeux, à la fois historiques, à la fois entre les personnages, en, sans problème, en fait, et sur 3h30.
Donc, ah non, il y a une fluidité de la narration qui est assez folle, justement, en plus, par cette idée du souvenir, ce qui est quand même pas évident, évident. Mais moi, le de-aging, j'avoue que ça m'a pas posé beaucoup de problèmes. Oui, j'avoue, quand tu regardes... En plus, on l'a vu sur grand écran, faut mettre ça aussi un petit peu en tête. C'est pas fait pour un écran aussi grand, d'une certaine façon, puisque c'est Netflix, donc c'était pas prévu tout à fait, même s'il sort aux États-Unis et dans quelques pays en salle. Hein, nous, en France, on l'aura pas en salle, mais ça, c'est une autre affaire.
On peut aller le voir en Belgique.
On peut aller le voir en Belgique. Mais voilà, le fait est que c'est fait normalement pour un écran de télévision, voir si quelqu'un a vraiment envie de se niquer les yeux sur un portable. Mais donc finalement, ce de-aging, nous on l'a vu en très très gros, là où tout le monde n'est pas censé le voir aussi gros. Mais après moi, et en effet, parfois, je suis d'accord avec vous, quand il est censé avoir 20 piges, ça surprend un tout petit peu, quoi. Enfin, ça surprend plus qu'un tout petit peu, en fait, au début.
Il y a un moment où il est vraiment censé avoir 20 piges.
Ouais, c'est la scène en Italie quand il bute les nazis.
Mais bon, puis même, il y a aussi, après, quand il rencontre Joe Pesci pour la première fois, il est quand même tout jeune. Hein.
Il a
déjà 40 ans.
Ouais, il est déjà un peu plus jeune.
Il avait une trentaine d'années. Enfin, bon, peu importe, le fait est que oui, ça surprend un petit peu. Mais je pense que c'est. Comme c'est pas son propos, il aurait pas pu prendre un autre acteur pour les jouer jeunes, puisque c'est pas son propos. Son propos, c'est de rester avec ces acteurs-là pour raconter cette histoire-là aussi du film de gangster. Et je trouve que ça fait travailler aussi un tout petit peu notre imagination. C'est-à-dire que finalement, oui, on nous pousse, on pousse cette imagination en nous aidant, d'une certaine façon, en déridant ces personnages. Mais en vrai, d'une certaine façon, je m'en foutais, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en avais vraiment rien à faire. Moi, je voyais ce que j'avais envie de voir, en fait. Et c'est toujours cette idée de la mémoire, c'est-à-dire ce flou, en fait. Toujours l'idée de le souvenir, le souvenir est forcément imprécis. Les contours sont flous, tout est un peu flou. Donc finalement, les visages, ils le sont également. Et plus on va se rapprocher, finalement, dans le temps, de l'âge du personnage au début du film, c'est-à-dire 80 piles, plus les contours vont se préciser, en fait. Finalement, plus on va dans le passé, moins c'est précis. Donc, d'une certaine façon, je trouve qu'il y a une certaine logique narrative là-dedans, même si après, on est d'accord que techniquement... Robert Downey Jr. Rajeuni dans Civil War, c'est plus probant, oui.
Mais c'est pas du cinéma.
On peut relancer ce débat.
Et du coup, c'est d'autant plus logique. Enfin, ça a du sens narrativement que effectivement le film est raconté du point de vue de De Niro, très vieux dans sa maison de retraite.
Le flou est pas si gênant.
Et c'est comme les flashbacks dans Friends.
Qui changent assez régulièrement les
fat suits et les
ils changent régulièrement la gueule des personnages. Mais il y a un autre truc qui est intéressant aussi par rapport à parce que tu parlais d'un film funèbre et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu c'est le mot classique film crépusculaire.
Moi j'ai pas du tout vu la belle
Stéphane
vie.
A dit funéraire, je tiens à préciser comme une urne funéraire dans lesquelles on met les cendres du cinéma.
T'as dit
funéraire
et funéraire après.
Ah bon, funéraire, j'ai dit ouais.
C'est joli un film funéraire, moi je
trouve. Juste un peu. Juste sur ça, moi, un peu comme Stéphane, je vois pas trop le côté bilan, nostalgie de la belle vie, en fait. Enfin, je suis vraiment plus dans un truc.
Pour moi, à la fin,
qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi.
Bah, pas que. Pour moi, à la fin, quand il raconte cette histoire, notamment avec cette jeune fille où il lui dit Ah, mais Jimmy Hoffa, enfin, il y a un espèce d'enthousiasme à raconter le truc, même de créer du mystère encore quand il y a les mecs du FBI qui viennent le voir et tout ça, où le gars, c'est un putain de passé qu'il a quand même, il a quelque chose à raconter et je pense que c'est quelque chose qui à la fin de sa vie on va pas se poser on va se rappeler ces moments là en fait, et donc je pense que c'est ça qui est intéressant. Mais je reviens plus globalement par rapport à Martin Scorsese lui-même, en fait c'est assez intéressant parce que je peux pas empêcher de faire un parallèle avec Martin Scorsese cinéaste. C'est-à-dire que d'une certaine façon lui aussi c'était l'homme qui était là, en fait lui aussi c'était l'homme qui était là dans le film de gangster, lui aussi aux côtés de, on les a nommés en fait, aux côtés évidemment de Coppola, aux côtés de d'autres grands, et même moi dans le film je trouve qu'il y a même un petit peu de Cassavetes dans sa manière dont c'est des hommes qui parlent entre eux, etc. Il y a quelque chose de très Cassavetes dans le film, et je vois aussi cette espèce de Martin Scorsese qui nous dit, ce petit bonhomme à grande lunette tes gros sourcils, qui nous dit ben moi j'étais là en fait, moi j'étais là avec ces gens-là et j'ai partagé ce truc-là et j'ai été aussi acteur et admirateur et certains ont disparu, peut-être que j'en ai tué certains, j'en sais rien, par mon travail, mais le fait est que il y a un espèce de regard sur son propre parcours et je peux pas m'empêcher d'imaginer que Scorsese d'une certaine façon se projette dans ce personnage de De Niro en fait et qui lui-même regarde sa carrière en disant damn, quoi, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, j'ai fait partie d'un truc assez fou, assez énorme, et là, arrivé à cette période-là de ma carrière, dans les Twilight Years de ma carrière, ben, j'ai le droit de regarder ça avec beaucoup de...
Sauf que c'est
pas
l'homme de l'ombre, hein, Scorsese.
C'est pas que l'homme de l'ombre, mais peut-être qu'il a aussi une forme d'humilité par rapport à ça, en fait. C'est pas...
Bah, oui, puis moi, je pense que...
C'est pas une projection à 100% littérale.
Et à raison, je pense qu'en fait, il a pas... Non, quand il se retrouve, en fait, à assumer, en l'occurrence, publiquement, comme Scorsese, qui dit, en gros, Marvel, c'est pas du cinéma, il n'y a pas d'humilité. Et tant mieux, en fait, il a raison de pas avoir d'humilité vis-à-vis de ça.
Mais non, c'est pas que ça, c'est peut-être humilité vis-à-vis des compères, des gens qui l'estiment, en fait. Pas des gens qui l'estiment pas comme Marvel. Mais les gens qui l'estiment comme justement Coppola, Cassavetes et compagnie, qui sont des gens qui l'admirent, eh ben, moi je pense que vraiment, ou même, j'allais dire Kubrick, mais bon, en soi, il cite pas Kubrick du tout. Mais le fait est que je pense qu'il a vraiment un truc du. Moi j'ai fait partie de ce gang-là. Et c'est une forme d'humilité de se dire peut-être, oui, voilà, j'ai été aussi un des acteurs. Moi aussi j'ai été reconnu, comme le personnage de Niro est reconnu à un moment donné. Et je. Moi, je ne pense pas du tout tout à fait prétentieux vis-à-vis de ses pairs, en fait. Au contraire.
Moi, je
ne parle pas de Marvel.
Je me pose des questions sur ça parce que...
C'est mon point de vue, après, j'ai pas le temps.
Du point de vue de Scorsese, ça, comment dire, son humilité vis-à-vis du cinéma, elle s'inscrit dans une histoire plus ancienne, c'est-à-dire qu'au-delà de ses pairs et des gens qui ont fait du cinéma en même temps que lui... C'est vraiment peut-être justement dans cette génération certainement un des plus cinéphiles et un de ceux qui
en plus oui mais celui qui a créé la World Foundation cinéma
extrêmement sensible et notamment tu parlais Stéphane tout à l'heure du fait qu'il pouvait s'interroger sur ce qu'on pouvait faire après Le Parrain au moment de faire Les Affranchis, mais c'est aussi quelqu'un qui a été fasciné par toute l'histoire préalable du film de gangster. Et pas que du film de gangster, mais toute l'histoire du cinéma. C'est un mec qui est extrêmement impliqué, ben, comme tu dis, dans la préservation des films, voilà. Dans la restauration des films. Pas que le cinéma américain, d'ailleurs, non, qui non. est extrêmement et curieux cinéma du italien, cinéma du monde entier, notamment. Le cinéma italien, mais aussi le cinéma asiatique, le cinéma indien. Cette humilité vis-à-vis du cinéma, elle, pour lui, elle coule de source. C'est-à-dire qu'à la fois, il est très conscient de sa place là-dedans.
Oui, je ne pense pas qu'il se mésestime, mais comme le personnage ne mésestime pas non plus, c'est ce qu'il a fait. Quoi.
Mais je m'interroge là-dessus. Moi, je trouve que c'est la scène, typiquement, la scène de confrontation à la fin du film avec les agents du FBI qui viennent lui demander qui viennent demander à De Niro mais franchement, tout le monde est mort.
Ouais, parlez
tu
maintenant.
Tu peux enfin raconter ce qui s'est passé.
Il l'a pas fait au FBI.
Et voilà.
Oui, en l'occurrence, c'est ça le truc.
Cette scène me pose question. Je pense que c'est un point clé de la compréhension du film et j'achoppe encore un peu sur ce que ça implique, en fait.
Parce qu'il est toujours dans ce système de valeurs, en fait, le personnage. Il va pas parler aux feds, en fait. Mais par contre, il va se raconter. Il va se raconter au gars qui a fait le livre, en fait.
En fait, je trouve que, en fait, sur la dernière heure, le poids du remords, notamment via le fil narratif de ce qui se passe avec sa fille et que sa fille ne lui pardonnera absolument jamais, cet aspect-là met quand même une chape de plomb sur le personnage. Enfin, il y a un truc qui est vraiment. Qui est indépassable, quoi. Il y a quelque chose qui fait que... Moi, je n'arrive pas à me dire
c'est un personnage qui ne croit pas. Ouais. En fait, il y a cette notion, à un moment donné, où quand, justement, le personnage Joe Pesci va, prier, le Pesci se fout de sa gueule. Il dit, tu vas prier et tout. Et Pesci dit, tu y viendras. Et en gros, pour Pesci, c'est la dernière fois qu'on le voit. Et pour Pesci, on peut prétendre que ça a marché. C'est-à-dire qu'on peut prétendre que sa rédemption, il l'a trouvée avant de mourir. Dans le cadre du personnage de Cyran, je pense qu'il essaye, puisqu'il le fait.
Et il finit par le faire. Ouais.
Mais en fait, ça marche pas. Ouais. Et en fait, ça marche pas parce qu'au fond, il y a quand même des principes et des valeurs qu'il a bafoués. C'est-à-dire, il les a peut-être pas bafoués auprès du personnage de Pesci, mais il les a bafoués auprès du personnage de Jimmy Hoffa. Quelle est la raison ? Quel est à quel moment il a été engourdi ? Et ça a changé l'histoire. Des États-Unis en fait, quelque part. Donc le truc, c'est que je pense que c'est mieux que ça reste en suspens, justement, que ça soit adressé, mais que ça reste en suspens, je pense, de la part de quelqu'un comme Scorsese, parce que personne n'a vraiment c'est pas une théorie en fait, le film, c'est-à-dire que c'est un film de narration. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre un exemple différent, un film comme JFK, c'est une théorie. C'est-à-dire, en fait, on va chercher Jim Garrison, on va poser les questions. Là où le film, pour moi, il est important de JFK, c'est de dire, ok, on a une théorie officielle qui est complètement aberrante, donc on va la remettre en question, et c'est ça qui est important. Mais en fait, il apporte des réponses, il apporte des éléments de réponse. Pour faire ce parallèle sur l'histoire des États-Unis, le film de Scorsese ne prétend pas apporter des réponses. Il prétend en fait suivre ce personnage-là. Il se trouve que ce personnage-là est coincé dans des événements qui ont façonné l'histoire des États-Unis.
Il y a pas de thèse derrière.
Voilà. Mais ce qui est un peu logique aussi quand on voit qui a écrit le film, en fait, c'est Steve Zayan. Zayan, ouais, j'ai peur de mal prononcer son nom. Steve Zayan, qui est notamment le scénariste de La Liste de Schindler, de Mission Impossible, ou là de la série The Night Of, qu'il avait aussi réalisé.
Co-scénariste de Sorkin sur.
Co-scénariste sur Le Stratège. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un qui, finalement, raconte du mythe en permanence, c'est-à-dire histoire contre histoire, en fait. C'est-à-dire, on raconte, c'est l'histoire dans l'histoire, la petite histoire dans l'histoire, ou même comment on façonne, on crée du mythe, comment on crée une histoire. Mission Impossible, ce n'est que ça, c'est d'inventer, recréer en permanence une narration. Quand on fait Moneyball, on met de la narration dans un truc de statistique, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va faire donner une histoire à des chiffres. Quand on regarde La Liste de Schindler, c'est la petite histoire dans l'histoire. On nous raconte la grande histoire par le biais du trou de la serrure, mais par presque un conte, en fait. Un conte terrible, mais un conte quand même. Et le fait est que The Night Of, c'est littéralement ma version contre ta version contre ma version. Où est la vérité ? Nulle part. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est encore ça aussi dans The Irishman, en fait. C'est-à-dire que on s'en fout, en fait, d'une certaine façon, de la réalité de cette histoire. Est-ce que c'est vraiment Frank Sheeran qui a tué ou pas Jimmy Hoffa ? On s'en fout un peu, et tant mieux s'il le croit, en fait. Et tant mieux si j'ai envie d'y croire à un moment donné. C'est là où je peux pas m'empêcher de faire cette comparaison avec Le Traître, parce que c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que le personnage de Tommaso Buscetta, qui est joué par, je vais pas tenter son nom, hein, mais Favino, okay, de nom de famille... Pierre Francesco, Favino, l'idée, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va raconter des histoires sur la mafia qui vont être prises pour réalité, puisque ça va permettre l'arrestation, la plus grande arrestation de la Cosa Nostra dans les années 80. Ça va être le plus grand repenti, et en même temps on peut pas s'empêcher de penser, et plein d'indices dans le film nous font dire genre, mais il bullshit pas un peu le bonhomme quand même pendant un bon moment? Et en même temps, est-ce que c'est grave ou pas ? Puisque au bout du compte, on est contente de manière générale, puisqu'en fait, on a une super histoire. Au bout du compte, est-ce que finalement, on n'a pas envie plutôt de suivre cette histoire-là que la réalité des faits ? Est-ce que la réalité des faits est si importante, surtout pour des trucs qui sont ultra prescrits, que ces histoires-là en particulier ? Parce que ce qui marche pour la mafia, c'est le mythe avant toute chose. C'est vraiment le mythe. Et je trouve que ce film continue, même dans son aspect funèbre, même dans son aspect mélancolique, même dans son aspect vraiment plutôt crépusculaire, pour employer le mot qui plaît bien, funéraire pour faire plaisir à Stéphane. Même là-dedans, en fait, il est encore en train de me dire plus fort que tout, ce sera l'histoire, ce sera la légende, ce sera le mythe.
Moi, je pense qu'il n'a pas le choix, en fait. Mais bon,
c'est, oui, non, mais il n'a pas le choix non plus, ça, c'est sûr.
Il y a d'autres films qui ont été faits sur Jimmy Hoffa. Il y a le film de Danny DeVito, hein, dans les années 90, qui montre une manière de tuer Jimmy Hoffa qui n'est pas du tout la même que dans
avec
ce film-là.
Tim Burton dedans.
Ah oui, il y avait Tim Burton, mais
je ne plus. Il joue un cadavre.
Ouais, et ça au moins, c'est rigolo.
Dans un cercle.
Et il y a aussi Fist avec Stallone, en fait. Il ne s'appelait pas Jimmy Hoffa, mais justement parce que ça a été fait 3 ans après sa disparition, donc il ne pouvait pas techniquement l'appeler comme ça, mais c'est le personnage de Jimmy Hoffa, et c'est pareil, la façon dont il se fait, c'est le plan final, hein, du film, c'est pareil, il se fait tuer, le personnage de c'est Kovacs, il s'appelle, je crois, et c'est Stallone qui joue le rôle. Quand tu vois la gueule d'Hoffa, tu vois la gueule de Stallone à l'époque, ça n'a rien à voir, mais en gros, le plan final, c'est pareil, c'est la mise à mort du personnage à la Hoffa, et c'est encore différent de ce qu'on voit dans voilà. Donc je pense qu'il n'a pas le choix, et en fait, je pense qu'il se pose plus vraiment la question, en fait, par rapport à ça. Et effectivement, de toute façon, il a fait de la mythologie avec la mafia.
Oui, voilà.
Il a aidé ça, et du coup, voilà, il est dans cette
directrice, quoi.
Avant de se quitter, chers amis, malgré cette longue et riche discussion, on va quand même céder à la tradition, parce que nous aussi, nous avons des valeurs. On est comme dans la mafia, mais avec plus des films que des armes et des meurtres. On va quand même céder à la tradition des recommandations. Je vais vous passer à tour de rôle la parole. C'est un peu le concept de cette émission. Perrine Kenson.
Je vais rester sur l'ambiance réalisateur qui fait un film funéraire, crépusculaire.
Cette expression bon, va rester.
Ça suffit.
Non, ça va rester.
Ça va rester,
Stéphane, on a dit.
Okay. C'est bon que tu aies mentionné Tim Burton parce que je pensais à lui, en fait. Ah. Et c'est avec Big Fish. Quand il a fait Big Fish, c'est terrible parce que pour le coup, il n'a pas le même âge que Scorsese quand il fait Big Fish, mais c'est déjà un film complètement de deuil. C'est quelqu'un qui d'un seul coup fait le tour de piste, littéralement, puisqu'il y a beaucoup d'idées du cirque, mais il fait le tour de piste de tout ce qu'il a fait, de tout et de sa manière de filmer et de son cinéma et de tout ça, et qu'un d'un seul coup il dit bon bah maintenant en fait je vais être condamné à répéter la même chose, je vais littéralement toujours refaire la même chose et je me muséifie et ça y est c'est fini pour moi en fait, et le film pour moi, et j'aime beaucoup Big Fish, mais surtout je le trouve pour cette raison là complètement triste, complètement de quelqu'un qui avoue que ça y est pour lui, en fait il a fait le tour d'un style, alors d'un style très particulier, pour le coup pas aussi foisonnant que Martin Scorsese, puisque moins de films, moins de temps, mais le fait est que c'est quand même quelqu'un qui dit bah voilà, moi j'ai fait le tour de ça, et c'est littéralement mon enterrement, et je redeviens un petit poisson dans une grande mare, et d'un seul coup j'ai plus le droit que d'être placardé dans les musées, et je trouve que et je vais devenir un stéréotype quoi. Et je trouve que c'est assez touchant, émouvant, et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Big Fish.
David.
Moi, j'avais
le temps
pas...
de latence d'accès à David est assez impressionnant.
J'avais pas vraiment de.
Il n'a pas le Wi-Fi, je crois.
J'avais pas pas vraiment.
Presque le logo Buffering.
Il est en 56K.
J'avais pas vraiment préparé de reco puisque vous venez de voir un film de 3h30, donc vous avez.
Et alors.
Faut aller vous coucher un moment. Mais du coup, quitte à faire ça, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Alors beaucoup de gens l'ont vu, mais peut-être aussi pas forcément. Justement.
Waouh. C'est meilleure introduction de film ever. Juste.
Des gens qui l'ont vu, mais peut-être.
Il y a des gens qui l'ont vu, d'autres pas.
Voilà.
Justement, il était une fois en Amérique de Sergio Leone, qui est pas finalement le plus vu des films de Sergio Leone, si vous avez sûrement commencé par Le Bon, la Brute et le Truand, où il était une fois dans l'Ouest. Mais donc le dernier film de ce cinéaste italien avec Robert De Niro,
James Woods.
James Woods et beaucoup de monde.
Et un camion poubelle.
Un camion poubelle.
Extrêmement important dans l'intrigue.
D'accord.
Et un chef-d'œuvre incroyable qui est dispo sur la plateforme concurrente de Netflix actuellement parce qu'il est sur Amazon Prime. Donc si vous êtes abonné, comme
techniquement,
moi.
Techniquement, il existe en Blu-ray.
Il existe en Blu-ray. Ouais, mais tu sais, maintenant, les gens, ils sont sur Snapchat.
Les jeunes, tu sais.
Il regarde.
Maintenant, les gens, ils sont sur Snapchat.
si c'est pas sur TikTok, voilà. Donc là,
vous avez tous 80 ans comme Franck Chirane.
Dites-vous qu'il était une fois en Amérique.
Ok, boomer.
Ça dure 3h40, donc c'est combien de TikTok?
C'est beaucoup de TikTok.
C'est beaucoup de TikTok.
C'est beaucoup de TikTok.
Non, et donc c'est un film. Et du coup, non, et ça me faisait penser au fait que.
La vie, finalement, c'est long.
Non, mais que Robert De Niro, dans les films de gangsters, a été un peu dans tous les.
Tous les grands coups.
Tous les gros coups. Tous les gros coups. Non,
on
mais
retrouve
aussi,
toujours ce gars-là.
En fait, là, il joue un Irlandais.
On l'appelle Bobby les bons coups, d'ailleurs.
Il joue un Irlandais dans The Irishman.
Tout à fait.
Il joue un Italien dans Le Parrain. Il fait partie dans la. Comment dire la. C'est quoi ses origines? Non, il était une fois en Amérique. Il est américain. Il est quoi?
C'est Noodles. Attends,
c'est Noodles.
Ouais, c'est Noodles, ouais.
Je sais plus, mais ouais. Ouais
et donc voilà, c'est l'histoire de l'Amérique.
ok, bon.
Mais qu'est-ce qu'il a pris avant de venir? Vous l'avez vu ou
il était
choses
fort ton truc anti-crève. Hein. Je suis curieuse.
Ah bah, c'est beaucoup de sirop à la codéine quand
c'est
même.
C'est tout un bordel.
Il y a des gens qui font des drogues avec ce qu'il
a. Non, en fait,
j'ai
compris en fait parce que tu sais, il a pris des trucs et du coup, c'est pour ça que ça va être plus grave, c'est qu'il est à 0,8 tu sais en vitesse.
Ah.
Normalement, t'es à 1 et il est à 0,8 ou 0,9.
T'es prêt pour Netflix en fait quand ils vont faire leur 1.5.
Ah bah, moi, je suis prêt pour tout quoi. Moi, je suis en streaming. Moi, je suis en MP4.
Moi, je suis en
T'es
streaming.
Sur Vine. T'es sur...
Vine.
En fait, on enregistre déjà les bonus de l'émission. Ouais, bienvenue dans les bonus.
Stéphane.
Il y a un alors plus petit film et qui est quand même un peu connu hein, de chez Scorsese, mais qui a aussi créé un petit genre narratif. C'est pas autant que Les Affranchis, évidemment, parce que Les Affranchis, le style narratif des Affranchis, quand on en a parlé tout à l'heure, il a quand même été repris par pas mal de cinéastes. Alors, bien ou mal, hein, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, quand c'est Paul Thomas Anderson sur Boogie Nights, ça va, tu vois.
Ouais.
Quand c'est Jonathan Demme, non, c'est pas Jonathan Demme, son neveu, pardon, Ted Demme sur Blow, tu vois, c'est pas possible, tu vois, c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a vraiment, et puis en plus, en général, les mecs essayent de faire quand même des films de gangsters avec ça, tu vois, donc, de criminels et tout. Mais bon, c'est un style très spécifique. En fait, il y a un autre film avec lequel il a plus ou moins créé un style. Qui a été repris ici et là, qui est After Hours en fait, qui est un film mineur aux yeux des fans de Scorsese, on va dire, mais qui moi je trouve pas tant que ça en fait, parce que c'est en gros c'est une nuit de débauche totale, mais qui en fait dans sa conception en fait assez claire, assez nette, assez précise, c'est le personnage de Griffin Dunne qui a un date le soir, en fait, il a un rendez-vous et en fait, elle se fait assassiner, donc en fait, mais il sait pas ce qui s'est passé, il est accusé, donc il se retrouve à devoir fuir et en fait, il peut pas rentrer chez lui et ça devient une espèce de nuit complètement cauchemardesque pour lui. Bah, c'est un film qui est un peu cité, un peu comme tu vois, de temps en temps, on te dit, voilà, tel film, c'est Un jour sans fin dans, par exemple, le film d'horreur, ou etc., etc. Il y a quelques films comme ça qui se réclament de After Hours. Et alors, en l'occurrence, je n'ai pas aucun film en tête de référencer, à part peut-être qui est un film qui n'est pas connu du tout, le Stretch de Joe Carnahan, qui est un tout petit film en fait, qu'il a fait en 2014, en fait, qui a été distribué aux États-Unis sur iTunes, je crois, directement, qui a été produit par Jason Blum et qui s'en réclame aussi. Mais je sais que, alors c'est pas des films malheureusement qui sont restés dans l'histoire du cinéma, on va dire, mais il y a pas mal de films en fait, qui se sont réclamés de ça, et mine de rien, c'est assez intéressant... voilà, à voir, parce que c'est un film qui fourmille d'idées, qui est assez, qui est assez épatant, malgré le fait qu'ils sont interprétés par Griffin Dunne, qui est quand même pas, pour moi, un très bon acteur, ni un acteur très charismatique. Mais il y a Rosanna Arquette dedans, il y a Linda Fiorentino, voilà, et c'est un petit classique, si j'ose dire, voilà.
Oh, un petit classique, c'est toujours mignon. Donc c'est effectivement la mafia juive dans Once Upon a Time in America, si c'était le terme que tu cherchais tout à l'heure. David Honora, il s'est endormi.
J'avais peur de faire une boulette.
C'est bien. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Victor à la technique, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.